Je dois vous avouer quelque chose. Avant vendredi, j'avais jamais entendu parler d'hypothèque islamique. Aucune espèce d'idée de qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Je ne savais pas. J'ai vu ça, je comprenais rien. Et je dois vous avouer autre chose. Quand j'ai vu ça, c'est peut-être la réaction de plusieurs personnes, j'ai comme été un peu inquiet, voire j'avais comme une opinion ou une attitude plus négative. Par contre, comment est-ce que c'est ça? C'est quoi une hypothèque islamique? Tu sais, mais non! Finalement, grâce à l'ami du show et l'excellent vulgarisateur d'actualité et sa vidéo qu'il y avait sur les réseaux sociaux, j'ai vite compris qu'il fallait pas que je m'inquiète pantoute. Puis c'était déjà quelque chose qui existait ici, et je parle bien sûr de Fernel Morissette.
Ben, j'ai eu la même réaction que toi, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit « Voyons là, on n'enverra pas notre argent à l'islam. On est laïcs, nous autres. On avait reçu Jean-François Robert jeudi dernier dans l'émission, qui nous avait dit « Le fédéral, mêlez-vous de vos affaires. » Puis là, Trudeau nous arrive avec un prêt islamique. Qu'est-ce que c'est ça au Québec?
On va en jaser avec Fernel Morissette qui est avec nous, sa vidéo pour nous expliquer. Puis allez le suivre, là, peu importe le réseau social, le TikTok, Instagram, YouTube, il est partout. Allez le suivre parce que vous le savez, il fait tellement bien ce qu'il fait sur les réseaux sociaux de nous vulgariser l'actualité. Il est avec nous, c'est un ami du show. Fernel, comment ça va?
Ça va très bien, j'espère que ça va bien, vous autres aussi.
Ça va très, très bien. Il doit avoir, là, publie pas mal de vidéos par semaine. Peut-être même, toi, dans ta tête aussi, tu dis « Hey, ça, là, ça, c'est un sujet qui va aller chercher tout le monde. » Finalement, ça pogne, mais pas nécessairement, tu sais, des visionnements records. Et peut-être d'autres fois, tu sors une vidéo où tu vulgarises un certain sujet et ça, ça pogne comme ça n'a pas de sens. C'est le cas du sujet des prêts hypothécaires islamiques. As-tu été surpris de la réaction de ta vidéo?
Ben, je commence à être bon à savoir, OK, ça va causer de la confusion, ça, il va avoir de l'intérêt pour ça. Puis, tu sais, ce vidéo-là, je savais qu'il fallait que je le fasse avant même que Yves-François Blanchet commence à sortir sur Twitter, avant même que plein d'autres personnes pointent que ça, c'était dans le budget, parce que je l'ai vu, puis je me suis dit, OK, ça, il va falloir qu'on en parle, parce qu'il y a le mot islamique là-dedans, puis dès qu'on parle de ça, il y a des gens qui, je les comprends, sont un peu inquiets.
Le problème, c'est-tu le titre? Le problème de l'inquiétude, c'est-tu le titre? C'est-tu prêt hypothécaire islamique? Puis pourquoi tu penses qu'on a utilisé ce terme-là?
Ben, si le gouvernement, dans son budget, si Mme Freeland et son équipe avaient appelé ça un financement alternatif à la propriété, ça aurait été parfaitement adéquat, là, c'est une bonne description, et on n'en aurait jamais parlé. On peut se demander, tu sais, on va rentrer dans c'est quoi exactement la mécanique, là, mais c'est une mécanique qui existe depuis des centaines d'années. Ce n'est pas nouveau, ça existe en Occident depuis des centaines d'années. Maurice Duplessis aurait pu financer sa maison de cette façon-là s'il avait voulu. mais bon, le fait que le gouvernement a décidé d'appeler ça un prêt hypothécaire islamique, ben ça, si c'est ça la critique est légitime. Parce que pourquoi donner un nom religieux à un outil financier qui n'est pas nécessairement obligé de l'être, juste parce que c'est un outil financier qui est plus généralement utilisé aujourd'hui par un certain groupe religieux? Ça, la critique est légitime. Mais de là à en tout cas, se lancer dans des idées qu'on est en train d'incorporer la charia dans les lois canadiennes, c'est démesuré comme réaction. Là. Ça n'a vraiment pas lieu d'être.
Donc, Fernel, ce prêt-là n'est pas nécessairement issu de la communauté islamique, c'est juste qu'elle est utilisée en majeure partie par la communauté. Alors, c'est quoi exactement le prêt hypothécaire islamique, comme on l'a appelé?
Ben, c'est un très mauvais nom parce que c'est pas un prêt. Il n'y a généralement pas d'hypothèque et puis c'est pas quelque chose qui est unique à l'islam. Alors, déjà là, on part pas bien.
Fait que ça va pas bien.
Essentiellement, l'idée, c'est la façon standard qu'on achète une maison. Tu vas à la banque, tu obtiens un prêt, la banque met une hypothèque sur la maison qui donne à la banque un droit de reprendre possession de la maison si tu ne fais pas tes paiements sur ton hypothèque. Et puis après ça, là, jour 1, tu as l'argent de la banque, tu es propriétaire de la maison puis tu payes des intérêts sur ton prêt. Ça, c'est une façon de financer les choses. C'est la façon la plus standard, la plus commune. C'est ce qui est généralement plus facile. Les banques sont très confortables avec ça. Mais il y a d'autres façons de financer un achat. Dans le monde de la haute finance, là, c'est pas juste des prêts et des intérêts. Alors, les prêts, ce qu'on appelle les prêts islamiques, c'est des méthodes de financement où il n'y a pas d'intérêt. Pour des raisons religieuses qui sont propres aux musulmans, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je ne suis pas un théologien de ça. Là. Alors, il y a généralement essentiellement deux façons de le faire. La première, c'est que la banque va acheter la maison avec l'acheteur en partenariat. Alors, la mise de fonds, toi, tu achètes 20 % des parts de la maison, la banque achète 80 % des parts de la maison, et toi et la banque, ensemble, vous avez un contrat par lequel, au fil du temps, tu vas acheter des parts de la banque dans ton partenariat de maison jusqu'à ce que tu sois propriétaire de 100 % de ta maison. Alors, encore une fois, ça, c'est une méthode de financement qui est commune dans plein d'autres domaines. On peut l'appliquer aux maisons. La deuxième façon la plus commune, c'est que la banque achète la maison entièrement puis rentre dans un contrat avec toi pour soit acheter la maison en mensualité à un prix déterminé d'avance ou tu payes un loyer, tu deviens locataire de la banque et ton loyer a une part additionnelle qui, le long du temps, va venir à payer le prix d'achat de la maison. Alors, dans les deux cas, la différence principale avec une hypothèque traditionnelle, c'est que la banque reste propriétaire de la maison jusqu'à ce que tu aies fini de la payer. Alors, tu n'as pas emprunté, il n'y a pas de prêt, donc il n'y a pas d'intérêt. Ce qui fait que c'est préférable pour les gens qui, pour des raisons morales, religieuses, culturelles, peu importe, veulent pas emprunter de l'argent et payer de l'intérêt.
Mais si on enlève l'aspect religieux, l'aspect culturel, appelons ça comme on veut, y a-tu des avantages ou absolument pas?
Présentement, il n'y a pas d'avantage. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher pour plusieurs raisons. Tu passes devant le notaire un peu plus souvent. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs transactions qui se font. Les banques traditionnelles n'aiment pas ça parce que le partage du risque n'est pas nécessairement à l'avantage des banques, ce qui fait que les banques qui font ce genre de choses-là, qui sont généralement des petites banques communautaires ou des petits groupes financiers communautaires, chargent un peu plus cher. Alors, c'est moins certain du point de vue réglementaire, ce qui est d'ailleurs la raison que ça s'est rentré dans le budget. Le gouvernement veut encadrer fiscalement la pratique de façon un peu plus claire. Les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça coûte plus cher et puis c'est moins accessible. Il n'y a pas vraiment d'avantage à faire ça, à moins d'avoir une motivation, encore une fois, culturelle, morale, religieuse, de vouloir éviter de payer des intérêts.
Fernel, avec tout ce que tu viens de nous expliquer là, et je trouve que c'est très, très clair, soit dit en passant, est-ce que c'est légitime que le prêt hypothécaire islamique fasse partie du débat de la laïcité au Québec?
Si on veut parler du mot, ouais, peut-être, mais la chose elle-même, non. Parce que comme, tu sais, c'est des méthodes de financement qui existent en Occident. Je veux dire, les Romains finançaient des achats de cette façon-là. Quand moi, j'étais à New York, je travaillais pour Wall Street, en droit des affaires, des financements qui prennent exactement ces formes-là entre des grandes banques puis des méga corporations multinationales qui n'ont rien à voir avec l'islam. J'en ai négocié des dizaines, là. C'est pas un nouveau développement. Ce qui est nouveau, c'est que les gens appliquent ce genre de processus financier-là à l'achat de maisons au niveau d'acheteur individuel. Alors ça, c'est nouveau, c'est pas tout à fait commun, ce qui fait qu'il y a peut-être un peu de confusion là-dessus.
Moi, je me questionne, Farnell, sur l'utilisation du mot « islamique ». Est-ce que tu crois que c'était prévu par le gouvernement fédéral pour continuer la guerre à la loi sur la laïcité au Québec?
Je suis pas dans l'équipe de Mme Freeland. Tout ce que je pourrais faire, c'est spéculer. Mais pour avoir fait un tout petit peu de politique en tant que bénévole, je serais vraiment pas surpris que la personne qui a inscrit ça dans le budget y a pas pensé. T'sais, c'est trois paragraphes, c'est une demi-page dans un budget de 495 pages. Est-ce que ça a été révisé à chaque niveau par tous les points de vue politiques là-dessus? J'en doute, mais c'est pas impossible. Ça se peut que la décision ait été consciente, que le gouvernement a utilisé le terme islamique spécifiquement pour vouloir faire un clin d'œil clientéliste à une communauté religieuse. C'est pas impossible, mais je veux dire, ce serait une question à poser à l'équipe de Mme Freeland, pas à moi.
Bien, justement, tant qu'à être dans les spéculations par rapport aux politiques, parlons de la sortie des François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui lui parle d'injustice, d'un privilège qu'on donne. Puis là, de ce que tu nous expliques au niveau monétaire, au niveau finance, il n'y en a pas vraiment finalement d'avantage. Fait que ça n'a pas rapport quand on dit que c'est juste moral puis religieux. Fait qu'on leur donne ça, ça ne change rien à monsieur, madame, tout le monde qui n'en veut pas. Fait qu'est-ce qui, François Blanchet, ne fait que capitaliser sur le fait qu'il y ait le mot islamique? Est-ce qu'il comprend bien, lui, c'est quoi? Ou est-ce que il comprend pas puis il pense qu'il y a vraiment des avantages? Si c'est le cas, ben je pense qu'il est très mal conseillé, là.
Je ne sais pas s'il parlait davantage autour des outils financiers eux-mêmes ou davantage du fait que, bon, le gouvernement annonce qu'il va se pencher sur la question, qu'il va probablement dépenser des ressources pour mieux encadrer une pratique qui est particulièrement utilisée par un groupe religieux quelconque. Si il parle d'une injustice dans le sens qu'il y a des experts du gouvernement qui sont payés, qui sont salariés, qui vont dépenser de leur énergie pour se pencher là-dessus, je veux dire, on parle pas de frais faramineux, là. Le paragraphe dit juste que le gouvernement va se pencher sur la question puis essayer de voir comment mieux encadrer ça. Mais l'outil financier lui-même, le financement alternatif de cette façon-là, c'est pas un avantage. Et puis, donc, non seulement c'est pas un avantage, je veux dire, ça coûte plus cher, c'est moins certain, mais c'est accessible à tout le monde. Si toi, t'en veux un, tu peux en avoir un. Que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois une femme, un homme, c'est pas grave. La loi permet entièrement à toutes les institutions financières à offrir ce genre de service-là. La loi le permettait il y a 50 ans. C'est pas un nouveau développement. La seule nouveauté, c'est que les gens commencent à se tourner vers ça parce que c'est un alternatif au prêt avec intérêt.
Les politiciens devraient peut-être commencer à regarder et consommer les vidéos à Farnell un petit peu plus, peut-être pour comprendre ce qui se passe. Mais en terminant, Farnell, juste savoir ton opinion là-dessus. C'est-tu une tempête dans un verre d'eau ou est-ce que c'est une discussion importante et nécessaire à avoir en société? Puis peut-être que ça ne devrait pas prendre l'ampleur que peut-être que ça prend et va prendre. Mais tu sais ce que je veux dire? C'est-tu une tempête dans un verre d'eau ou c'est important d'en jaser?
Ben, c'est un peu les deux parce que la chose elle-même, oui, c'est une tempête dans un verre d'eau, là. Il y a pas lieu à voir, en tout cas, moi, je pense pas qu'il y a lieu à avoir un tollé là-dessus quand on comprend vraiment de quoi on parle. Mais ça cadre dans une discussion qu'on n'a pas fini d'avoir sur c'est quoi la place des pratiques religieuses au sein de l'encadrement par l'État. Est-ce que l'État devrait même reconnaître ces choses-là? C'est pas pour rien, là. Les politiciens, ils savent, là. Dès qu'il y a le mot islamique ou halal ou musulman dans quelque chose, ils ont juste à le répéter 4-5 fois, puis c'est garanti qu'ils vont faire la une, qu'ils vont faire les manchettes à quelque part. Et les politiciens, ils savent, ils vivent de ça. Alors, dans le contexte plus grand d'une discussion sur l'encadrement de la religion chez nous, ça, c'est une discussion qui est légitime, mais si on veut parler juste spécifiquement de cet outil financier-là, c'est une tempête dans un verre d'eau, puis on aurait vraiment mieux utilisé nos énergies ailleurs, je pense.
Suivez-le sur les réseaux sociaux, je le dis assez souvent, mais parce que je trouve qu'il fait un job formidable. Fernand Morissette, il est sur les différentes plateformes et nous propose, là, publie quelques vidéos par semaine par rapport à des discussions et des sujets chauds dans l'actualité. Hey, Fernand, merci encore une fois pour ça, ces discussions-là, je pense, sont très importantes. Personnellement, je trouve, et aussi pour les auditeurs, les auditrices,
tellement.
Surtout avec les réactions qu'on voit là, lorsque je jase avec différents auditeurs, auditrices, lorsque les textos rentrent par rapport aux jasettes qu'on a, c'est toujours très apprécié. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Farnell, merci pour ça.
Merci à vous. Bonne journée à tout le monde.
Merci. À bientôt. Restez là. Après la pause, on est déjà dans la troisième heure de Rage Against le matin. Entre autres, on va revenir sur le Grand Prix de Chine qui est en fin de semaine. Autre victoire pour Max Verstappen. Thomas Perrin sera avec nous. J'ai des billets à vous offrir pour le Appalaches Fest. La distillerie Appalaches, nos amis ici à Boulevard 101 ont un beau festival. On vous gâte avec ça. Et Émilie Pelletier, journaliste qui fait un job formidable du Soleil sera avec nous. On va revenir sur cette semaine difficile pour Claude Villeneuve, chef de l'opposition de la Ville de Québec et de son parti. Bougez pas, vous êtes à Boulevard 101, la radio qui t'envoie à San Francisco cet été.